J'ai moi beaucoup de choses à vous dire ce matin. Mon intervention sera un peu en deux temps. Dans un premier temps, j'ai un message j'ai sur le cœur. Le Seigneur fait les choses aussi pour cette année 2017, hein, pour notre communauté. Et puis, dans un deuxième temps, un message qui sera une information concernant la vie de l'Église. Donc, il y aura ces deux temps, je les enchaînerai. Voilà. Donc, c'est vrai que les débuts d'année sont un bon moment pour donner une orientation, mais qui ne doit pas sortir du chapeau. Hein. Vous savez que les entreprises font ça, ils élaborent des stratégies, etc. Puis alors, on décline des plans, puis il y a des réunions qu'ils appellent des grands messes. Bon, voilà. Mais pour ce qui nous concerne, ça doit être le fruit d'un enseignement reçu avec la sagesse d'en haut et à partir des circonstances vécues. Notre communauté, le Seigneur nous a placés ici les uns et les autres. Il ne nous a pas placés ailleurs. Hein. Et des fois, on sait que la vie en communauté, ça frotte un peu, mais c'est comme ça. Il nous a placés là. Hein. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonnée? Et puis, il nous est dit aussi, au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Alors, je voudrais faire un petit rappel de l'année 2017 au niveau national, international et mondial, pour faire de la géostratégie. Hein, 2016, parce que pour 2017, le Seigneur peut donner des choses, hein. Donc au niveau 2016, et même avant, si on prend un peu plus large, ce qu'on constate depuis des décennies, là, c'est un peu la désintégration des empires, je dirais, territoriaux, hein, au niveau mondial. Par contre, la constitution d'empires économiques, financiers, des empires d'information aussi et de communication. Hein, vous voyez, il y a toujours des empires. Mais il y a le territoire, bon, ça bagarre encore un peu là-dessus, mais les enjeux sont ailleurs. Ce qui est apparu sur ces 50 dernières années aussi, c'est la capacité de l'homme à détruire la Terre. C'est clair. Soit brutalement, hein, on pense aux bombes atomiques, c'est clair qu'il y a largement la capacité de faire tout flamber. J'allais dire soit à feu doux, hein, c'est tout le problème de l'écologie, tout le monde se désole, on consomme plus qu'on devrait, enfin bon, voilà. Donc dans les deux cas, l'homme vraiment... montre sa folie. Depuis, on va dire, une vingtaine d'années, le terrorisme, c'est clair, qui est devenu complètement incontrôlable. Hein. Je crois qu'on a encore été servi sur l'année 2016. Et il y a ces phénomènes qui deviennent de plus en plus denses. Un monde d'errance, c'est un terme que j'emploie souvent, mais c'est une réalité. Un monde d'errance. De plus en plus d'individus, de populations entières sont errantes dans le monde. Ce n'est pas le thème de mon message ce matin, mais je veux souligner quand même que Dieu est au courant de ces choses et que l'errance dans Osée, c'est un texte que je vais prendre beaucoup aujourd'hui. Mais Dieu dit qu'à partir du moment, notamment il traite de toute l'idolâtrie, de l'adultère de son peuple, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Il y a quelque chose de très grave là, des racines qui sont importantes et qui sont cause de beaucoup, beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances de tous ordres. Hein, peut-être on s'habitue, mais je pense que les personnes qui vivent cette errance ne s'habituent pas, on ne s'habitue pas à l'errance. Il y a le refus de toute autorité. J'étais marqué cette semaine. Je vois que 400 000 signatures collectées sur Internet via des sites spécialisés dans ça. Et puis une décision d'un chef d'État change. Curieux. Curieux. Démocratie, on vote, on élit des gens. Et puis, paf, 400 000 signatures électroniques. Vous savez, c'est pas compliqué de faire des clics. Je suis d'accord avec ça, ça donne une bonne conscience à pas cher. Et ça marche. Ça doit nous interroger, ça. Au milieu de cela, plusieurs événements interpellent. Des élections surprises, déjouant tous les pronostics. Brexit, Trump, Fillon, et qui font suite à bien d'autres, ce qui s'est passé à la Grèce. Alors l'actualité va tellement vite, ça zappe tellement rapidement qu'on oublie, par exemple, la Grèce qui vit ce truc qui n'est pas facile du tout, quand même. Hein. Imaginons, là, en France, que du jour au lendemain, on explique que les indemnités de sécurité sociale sont divisées par deux, que les retraites est près de moins 30%, que les salaires, bon, comme ça, du jour au lendemain. Attendez, c'est ça qu'ils ont vécu, hein. C'est pas fini, d'autres le verront vivre. Hein. Et de partout, ça c'est général, les commandements divins sont bafoués et en plus on s'en vante. C'est vraiment un signe de Sodome. Ésaïe 3, verset 9 dit « Comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, encore que. Mais pour dire qu'on a dans la parole de Dieu des choses qui doivent nous interpeller. Alors pourquoi j'évoque tout cela ? Parce que nous devons nous interroger en ce début d'année, est-ce que, en tant que peuple de Dieu, nous, c'est-à-dire des pécheurs rachetés par leur Sauveur et justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et je me réjouis que dans les prières, dans les temps, nous insistions sur ce fait-là, nous proclamons la vérité, le salut par l'œuvre de Jésus-Christ, sommes rachetés par son sang, par grâce. Je crois que la communauté saisit ces choses, ne le cache pas. Et comme disait Daniel, ce n'est pas des affaires de routine, c'est extrêmement important. Nous proclamons cela, mais la question que nous voulons nous poser, c'est est-ce que celui que nous appelons aussi notre Seigneur, est-ce que nous sommes bien positionnés par rapport à lui ? Ou avons-nous encore des fonctionnements qui ressemblent étrangement à ceux de ce monde ou système de ce monde ? C'est quand même une question qu'on peut se poser au moins une fois par an, quoi. J'en suis où ? Et les deux textes que nous allons lire maintenant, dans Osée donc, un dans Osée et l'autre dans Jérémie, contiennent l'exhortation qui, je le crois, nous est adressée pour cette année. Défrichez-vous un champ nouveau. Nous allons lire ces deux textes et les commenter. Nous allons lire d'abord le premier. Alors, quelques précisions sur ces deux textes. Du contexte de ces deux textes. Les deux textes sont adressés, l'un par le prophète Osée au royaume du Nord. Vous savez que à partir de la fin du règne de Salomon, le royaume a été divisé. Hein, ça avait été dit par Dieu à Salomon, puisque tu as dérivé, il a largement dérivé, il a bien commencé mais mal terminé, hein, ça doit être quelque chose qui nous interpelle, eh bien, le royaume sera divisé. Il y a eu le royaume du Nord, qui est parti avec 10 tribus, et comme Dieu avait fait une promesse à David qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône de Juda, eh bien, il a conservé 2 tribus, Juda et Benjamin, et les 2 royaumes vont vivre de manière séparée. Le royaume de Samarie va très vite entrer dans l'idolâtrie, désobéissance, puisque Dieu avait fixé à Jérusalem le lieu de culte. Et comme territorialement, ils avaient plus accès, ils ont créé un lieu de culte à Samarie. Donc, de toute façon, ils sont entrés très tôt dans l'idolâtrie. Mais Juda n'a pas fait mieux. Et ces deux textes se situent l'un et l'autre quelques mois ou quelques années avant que ça se termine mal pour le royaume du Nord, pour le royaume du Sud, avec une déportation. Donc, vous voyez le contexte. Dieu a averti longtemps à travers les prophètes, à travers les rois, ceux qui se sont remis en cause, et voilà qu'une dernière exhortation est adressée par Dieu. Voilà le contexte de ces textes. Nous allons donc lire Osée 10, Osée chapitre 10. Alors, Osée chapitre 10, nous allons lire les versets 1 à 4, puis 12 à 14. Pour limiter. Osée 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Nous voilà encore dans le jardinage. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues, et bientôt ils diront « Nous n'avons point de roi, car nous n'avons point craint l'Éternel. » Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Et ensuite, à partir du verset 12, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous de la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites comme fut détruite Chalman Beth-Arbel au jour de la guerre où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce qui vous attire. Ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté, vienne l'aurore et sans défait du roi d'Israël. » Je veux souligner le verset « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. » Les avertissements se poursuivent, comme on l'a vu, et je ne lis pas plus, il faudrait lire tout le contexte d'Osée, vous pourrez le faire chez vous. On va prendre un deuxième texte, et vous allez voir comme c'est curieux, Jérémie 1, versets 1 à 14. Jérémie 1. Jérémie 4, autant pour moi. Jérémie 4, versets 1 à 14. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. C'est une promesse, ça. Si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Je vais lire un peu plus loin. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. C'est les Assyriens. Le lion s'élance de son treillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici. Le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques ? Ces deux textes, avec cette position centrale, C'est marrant, c'est au milieu de textes qui annoncent des jugements. Alors je précise, je ne suis pas le jugement dernier, je tiens là-dessus une précision parce qu'on n'aime pas parler de ça. Mais il y aura le jugement dernier. Là, ce sera définitif. Mais d'ici là, dans nos vies, nous qui sommes au Seigneur, il peut arriver encore au Seigneur de juger des aspects de nos vies. Ce n'est pas une condamnation éternelle. La question, c'est que quand il juge un aspect de nos vies, comment le recevons-nous? Est-ce qu'on reçoit l'avertissement, l'exhortation à se reprendre, ou est-ce qu'on dit, c'est pas pour moi? L'enjeu, il est là. Hein? Donc là, c'est, je rappelle que Dieu a conduit ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte. Là, il est amené, il est à la veille de l'envoyer en déportation. Mais vous connaissez les textes. Cependant, nous ne sommes pas sans espérance. Au lieu même de la déportation, il leur dit « j'irai vous rechercher ». J'insiste là-dessus, parce que si nous ne comprenons pas ça, nous oscillons dans un idéalisme béat, voire mystique, et puis de temps en temps, nous sommes dans un désespoir profond. Or, toute l'Écriture nous prépare à être repris pour ressembler de plus en plus à celui qui nous a sauvés. La vie a été plantée en nous, il faut qu'elle se développe. Et donc, de temps en temps, il faut défricher, tout simplement. Donc c'est un véritable cri qui jaillit du cœur de ces deux prophètes à plus d'un siècle d'écart. Hein, ça, on ne voit pas quand on lit les textes. Il y a entre 120 et 130 ans qui séparent ces deux textes. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes hommes, mais c'est exactement les mêmes propos. Remarquons au passage combien nous sommes lents parfois à comprendre et durs d'entendement. Judas aurait pu tirer enseignement de ce qui est arrivé à ses frères et sœurs de Samarie. Mais non, il a continué. Dans les deux cas, l'exhortation ressemble à un dernier appel, avertissement, avant que le jugement de Dieu ne vienne stopper la folie d'un peuple qui, malgré les appels, rappels, avertissements, cris d'alarme adressés par les prophètes, s'est enferré et enfermé dans sa révolte, dans l'idolâtrie, dans la compromission, au point de prendre position pour le peuple de Judas, que Jérémie a interpellé une nouvelle fois, « Non, nous ne t'obéirons pas et nous ferons ce que nous avons envie de faire. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. » C'est ce que prend Osée. « Tu as marché dans tes propres voies. » Tu as marché dans tes propres voies. Malgré tout, le Seigneur, dans son immense patience, les entrailles retournées à la pensée qu'il va devoir juger son peuple. Comprenons ça. Je ne peux pas vous donner tous les textes, mais on dit l'Ancien Testament est dur. Il n'est pas dur, il est plein de compassion. On voit la compassion de Dieu. Ses entrailles sont saisies, ça nous est dit texto. Quand il doit, il sent qu'il va devoir agir. Ses entrailles sont retournées. Le Dieu Tout-Puissant, il est retourné. Ses entrailles sont retournées devant son peuple qui est prompt à s'éloigner de lui et qui ne revient pas malgré les appels. Moi, ça me bouleverse. Ses entrailles sont retournées à cette pensée-là parce qu'il va juger son peuple, non pour le détruire, mais pour le ramener à lui. Et il lance encore cette invitation, « Défrichez-vous un champ nouveau ». Je ressens que cet appel nous est adressé aujourd'hui à nous, oui à nous ici, à notre Église. Je n'exclus pas les autres, mais comme le Seigneur m'a placé ici, j'essaye de saisir ce qu'il veut pour nous. Frères et sœurs, les textes nous invitent à défricher un champ nouveau et des précisions nous sont données. Dans le texte de Jérémie, « Ne semez pas parmi les épines ». Des fois, on est prompt, on va essayer. Ne semez pas parmi les épines. C'est pourquoi il nous faut défricher, c'est-à-dire arracher tout un ensemble de systèmes de pensées entremêlés. Le défrichage, ce mot, il est là, c'est quand la friche est venue. Et à un moment, l'herbe, au début, quand elle pousse, on peut les arracher par temps humide. Hein, faut bien calculer, il faut que ce soit un peu humide, pas trop, parce qu'après ça colle. Mais il y a un moment où on arrache, paf, ça vient. Même des racines assez grandes, même des pissenlits, on peut les arracher. Si on ne laisse pas venir trop, on peut arracher une par une. Mais à un moment, quand c'est bien enfriché, c'est fini. On ne peut plus. Tout est entremêlé. Donc il faut défricher. C'est pour ça que je parle de tout un système de pensées entremêlées. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Il y a une précision qui est donnée. Pas question de pratiquer la circoncision. Circoncisez vos cœurs. Oui, nous dit Osée, vous avez cultivé le mal. Vous avez mangé du fruit du mensonge. Vous avez cru des choses qui étaient fausses et vous vous en êtes nourris. Mais c'est notre cas à tous. J'aime bien cette expression. Vous savez, mettez-le en parallèle avec la manne. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a le fruit du mensonge, il y a la parole de Dieu. Mais ce qu'on a mangé, ça a des conséquences sur notre... Il nous dit les choses, il ne nous assomme pas. Car tu as eu confiance dans ta voix. Il précise quel mensonge, avoir confiance en sa voix, ma pensée, mon machin, etc. Mais il nous dit maintenant, arrête de semer des choses religieuses dans ton système de pensée. Arrête de semer dans ces ronces et ces épines-là, celles de notre propre justice, celles de nos œuvres pour être vues ou se faire plaisir. Ou alors, comme Jésus va le dire, considère que tu as déjà ta récompense. Mais notre récompense, ce n'est pas celle-là qu'on cherche. C'est celle d'avoir une place là-haut. Je vais prendre un exemple dans le psaume 120. On va lire le psaume 120. Pour être, c'est un psaume qui, cette semaine, m'a touché, va dans le même sens. C'est dans le Cantique des Degrés, le premier des Cantiques des Degrés. « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. » Alléluia. C'est une bonne nouvelle, ça. « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. » Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Un texte comme ça qui... Le psalmiste supplie Dieu de délivrer de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. C'est quoi ça? C'est notre système de pensée. Puis à un moment, ça vient dans notre bouche des choses qui peuvent être ou flatteuses ou convenues. Ou, c'est dit par ailleurs, on peut prêter l'oreille, écouter et relayer des choses qu'on n'a pas forcément vérifiées. Il dit que ça tombe à l'intérieur comme des friandises. Mais après, ça fait du dégât. C'est ce que nous dit ce psaume. C'est une invitation à ne pas dire soi-même des faits non vérifiés. Aussi, l'invitation à s'éloigner de personnes qui manifestent, parlent beaucoup trop et qui ne manquent pas de péché, ça c'est la parole, et de souiller eux-mêmes et ceux qui les écoutent. Il est fait allusion dans ce psaume à deux tribus. J'ai regardé ça un peu, je me dis, tiens, on ne retient pas tous les noms dans la Bible, hein. Et les deux tribus, elles sont intéressantes. Méchec, c'est une tribu qui trafiquait à grande échelle avec la ville de Tyr. Vous savez, le prince de Tyr, une image de Satan. Le commerce n'est pas condamnable. Hein. Calme tout de suite. Par contre, on sent le trafic. Ceux qui mettent leur confiance dans les richesses et le système qui y donne accès. Méchec, c'est vraiment ça. Ils avaient bâti leur truc. Je pense que... Un des aspects qui est souligné dans l'Apocalypse, hein, elle est tombée aussi, la Grande Babylone, et tous ceux qui faisaient commerce avec elle. Hein. Donc ça, c'est ceux qui vraiment mettent leur confiance dans le système, on va y arriver, ça baigne, et puis qui ont une certaine réussite aussi. Hein. Ça marchait bien, Tyr. Hein. Ça marchait pas mal, les affaires. Hein. Et Kédar, c'est des descendants d'Ismaël, se confiant dans leur force, hein, des archers habiles et des indépendants. Intéressant, les deux tribus. Hein? David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit au Seigneur, délivre-moi de ces choses-là. Donc ne semez pas parmi les épines. On pourrait encore souligner aussi que les épines, dans la parabole du semeur, c'est quoi les épines? C'est les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs de la vie. Si ça a commencé à gagner, pas la peine d'essayer de semer des bonnes choses ou des bonnes œuvres au milieu de ce terrain-là. Ça va être perdu. Ça coûte cher, la semence. Il ne faut pas gâcher. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à défricher. Et après, on va pouvoir semer. défricher un champ nouveau. Et semer comment ? Semer selon la justice. Jésus va dire à ses disciples, « Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors maintenant, oui, arrête de semer dans ces ronces-là et ces épines, mais sème selon la justice, celle de Dieu, celle qui nous a été décrite ce matin encore, celle par laquelle tu es justifié. Donc tu as pu à semer, tu as pu à vivre ou à faire des œuvres pour te racheter, c'est fait, c'est fait. Sème selon cette justice-là que tu as reçue de Dieu. Et selon sa miséricorde, celle qui dure à toujours. Et nous récolterons, c'est marrant, sème selon la justice, récolte selon la miséricorde. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Et son cœur, il est miséricordieux. Le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On peut laisser tomber tout ça. Si dans notre faiblesse, dans nos incapacités, nos déceptions de nous-mêmes ou des autres, nous continuons d'aimer, le Seigneur nous accompagnera, il amplifiera et il bénira. Si malgré nos déceptions de nous-mêmes, nos déceptions des autres, nous décidons de continuer d'aimer, le Seigneur bénira. Il amplifiera, il développera, ça va pousser. J'ai vraiment très travaillé avec ça. C'est une décision. On est, aussi, des fois, les émotions, c'est compliqué. On croit que parce qu'on ne ressent rien, on n'aime pas. C'est une décision d'aimer. C'est une décision d'aimer. Vous en avez peut-être du stock, mais moi, j'en ai pas du stock d'amour. S'il n'y a pas celui que le Seigneur a déposé le jour où il m'a pris, et je lui supplie de renouveler. On n'en a pas. S'il y en a qui ont du stock, je suis preneur. J'ai du mal à stocker, moi. Il faut qu'il y ait une renouvelle. Mais je répète, si dans notre faiblesse, nos incapacités, au milieu de nos incapacités, nos déceptions de nous-mêmes et des autres, nous continuons d'aimer, le Seigneur nous accompagnera, il amplifiera et il bénira. Il va dire, apportez les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je ne traite pas de la dîme aujourd'hui, mais si vous donnez de votre cœur, si vous donnez vous-même, Seigneur, je ne suis pas encore prêt, je suis encore tellement blessé, je suis encore tellement, oui, j'étais encore tellement, moi aussi. Mais si tu décides d'aimer, il bénira. Si nous offrons nos corps et empruntons ses voies, je crois que Serge a prié pour la Sainte Seine, j'aime. Arrêtons de penser que ça va être facile. C'est une décision de notre part. On a une décision. Et on est en capacité de la prendre si on a reçu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Avant, on n'était pas capable. Avant, on croyait aimer. Si le Seigneur a visité notre vie, on sait qu'on n'aimait pas. Où on aimait ceux qui nous aimaient. Bon. Mais maintenant que Christ vit en nous, parce qu'il vit en nous, on a la capacité, osons, dire je vais aimer mes frères et sœurs. Je décide. C'est comme le pardon. C'est une décision, le pardon. Il n'y a besoin de personne pour le pardon que de la grâce de Dieu. Et de souvenir qu'il nous a pardonné alors que nous étions ennemis de lui. C'est une décision. La réconciliation, c'est autre chose. Mais le pardon ou la décision d'aimer, c'est une décision qu'on prend seul devant Dieu. Les œuvres que Dieu a préparées pour nous, les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'Éphésiens 2, nous, le peuple qui lui appartenons, son Église, ne consiste pas à être à la remorque de ce que fait le monde, mais à défricher un champ nouveau, car notre Seigneur sait et connaît les temps qui viennent, ce qui sera dans 10, 15 ou 50 ans, et c'est à son peuple, nous, je le dis, qu'il veut confier. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Je suis certain que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs ce qu'il veut faire. Nous ne savons pas ce qui vient. Nous pouvons faire des pronostics, mais je ne vais pas revenir sur les sondages. Je le dis, est-ce que nous allons aller commander des sondages pour connaître les besoins, les attentes et les désirs de ce monde? Ou irons-nous consulter le Dieu vivant, l'architecte et le constructeur, pour entrer dans les œuvres qui nécessairement accompagnent la vie nouvelle que nous avons reçue? Aucune œuvre ne peut nous sauver, mais si nous sommes sauvés, alors nous sommes appelés à des œuvres, frères et sœurs. Nous sommes appelés à des œuvres que lui a préparées, lui l'architecte et le constructeur, et nous sommes appelés à être ouvriers avec lui. Pas ouvriers indépendants, pas architecte et constructeur, ouvriers avec lui sur ses instructions. J'ai échangé avec un frère hier, un jeune frère, qui me disait Robert, parce que nous faisons des travaux de construction, et alors le maçon qui est là, il travaille avec un compagnon qui est vraiment son aide. C'est lui qui a le métier, maçon, il pose les briques, tout ça, et l'autre compagnon, c'est son aide. Et il amène la brouette, il amène le ciment, mais écoutez, il n'y a pas de bruit sur le chantier. Et ce jeune frère me disait hier, il me disait, Robert, moi j'ai travaillé dans une entreprise de bâtiment comme ça, et j'ai vécu un bon moment, parce que je travaillais avec quelqu'un qui était plus jeune que moi, mais c'est lui qui était le chef d'équipe, l'équipe de deux. Dans le bâtiment, je pense que l'équipe, c'est deux. Tout seul, on ne fait rien, le bâtiment. Et il me dit, Robert, j'étais heureux. Parce que c'était clair et net, je savais ce que j'avais à faire, j'obéissais, ça ne me coûtait pas, il avait besoin de ça, je me positionnais bien, etc. Merveilleux. Merveilleux, ça. On a besoin de ça. Des fois, je soupire, je dis, Seigneur, je dis, mes frères, moi, ça m'est plus facile, je vais vous dire franchement, ça m'est plus facile de faire ce qu'on me dit que des fois de diriger. Vous paraît peut-être curieux, mais c'est la vérité. Je trouve que c'est beaucoup plus reposant. Beaucoup plus reposant. Fais ci, fais ça, tranquille. Je vous assure. Et ça me touche. Ce frère me disait, ouais, j'étais bien. Et il aime son métier, hein, ce jeune-là. Et vous voyez. Donc, avec le Seigneur, il a tous les plans. On n'a pas besoin de se tracasser. Mais je me prêche à moi-même, hein, parce que la maison, les trucs qui tournent un peu de temps en temps. Pour l'église, les trucs qui tournent. Mais il a fait les plans. Par contre, je pense qu'il veut nous dire. Il veut nous donner la direction. Alors, simplement, que cette année 2017 qui s'ouvre soit pour notre communauté l'occasion de défricher un champ nouveau que le Seigneur nous propose. C'est un travail rude, peu gratifiant au commencement, mais bientôt la perspective de semer dans une terre ameublie. C'est quoi une terre ameublie? C'est des cœurs redevenus souples. Je continue la comparaison. Quand vous avez une terre en friche, que vous y allez, ou avec la bêche, ou avec la charrue, si vous avez une charrue, il y a tout le tissu herbeux là. Mais en dessous, il y a la bonne terre. Il y a la bonne terre. Mais il faut déchirer le tissu herbeux. Et après, il y a la bonne terre. Donc une terre ameublie, c'est des cœurs redevenus souples, parce que délivrer des racines d'amertume et de non-pardon. Et là, le Seigneur peut réjouir nos cœurs. Et les œuvres, elles ne manqueront pas. Qu'il s'agisse d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je crois que nous avons une direction pour l'Église, qui est la sanctification au sens de la purification et d'une mise à part qui n'est pas toujours facile à vivre. Vous allez dire que ce n'est pas une direction spécifique de l'Église. En tout cas, nous l'avons reçue de manière très forte, de revenir à l'harmonie divine selon le plan de Dieu. Mais ce n'est pas juste pour se contempler comme des œuvres réussies qu'on mettrait sous cloche. C'est pour aller. C'est pour aller. Donc il s'agisse d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de soulager les pauvres de toutes sortes de pauvretés, et d'abord nos frères en la foi, auprès de nous et au loin, qu'il s'agisse de participer à la guérison ou à la restauration de ceux qu'il a rachetés pour en faire de véritables disciples. Nous avons ça à cœur. Et je sais que vous avez cela à cœur, la restauration, la guérison. Mais on n'attendra pas qu'on soit tous guéris pour entrer dans le service. Sinon, on va attendre longtemps. discutais avec des frères aussi hier, on partageait, hein, me disait, ça m'a touché ça. Peut-être qu'il y a des choses où on ne sera jamais guéri. Hein? Peut-être qu'il y a des choses où on ne sera jamais guéri. Mais je crois qu'on pourra avoir la consolation. La consolation. La consolation. Ça libère aussi. Le travail ne manque pas dans le royaume. Alors je voudrais nous encourager ce matin. L'année 2016, moi j'ai vu des choses dans la vie de l'Église. Je vais citer, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Ah, sinon j'aurais à demander pardon. Les équipes de ménage, il y a eu des choses. Rappelez-vous, on avait exhorté, c'était... Et des choses se sont mises en route. Je ne change pas d'avis. Je pense que la maturité a augmenté. Maturité d'une église, on le voit aussi aux équipes de ménage. Les repas en commun, nous avons vécu ces derniers temps de vraiment des bons moments. Une abondance qui manifeste des cœurs. C'est pas étriqué ce machin-là. Vraiment, l'abondance. Les collations, l'équipe de louanges, les clubs bibliques, les services audio-vidéo. Et ce matin, il y a un qui était souffrant, il a fallu réajuster au dernier moment. L'importance de l'obéissance et de l'engagement fidèle, ça, peut-être je reviendrai là-dessus. Il y a s'engager, et puis il y a la fidélité, c'est vraiment important. On est une église, quand en plus numériquement on croit, c'est important, la fidélité. Il y a tellement nombre de personnes engagées, et s'il manque... Là aussi, s'il manque une pièce, s'il manque un relais dans le système, c'est compliqué, quoi. Le soutien scolaire, la librairie, la bibliothèque, l'entretien du matériel et des locaux, tout cela est remarqué. Vous savez, je dis cela est remarqué, c'est pas pour tirer gloire, on dirait mieux, mais je rencontre aussi des frères et sœurs d'autres églises. Bon, notre salle est remarquée. Je crois qu'elle est remarquée parce qu'elle est propre aussi. C'est important. C'est important. Faites tout comme pour le Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Elle est remarquée. Et puis, je me disais ça, on était vendredi avec Jean-Pierre et puis un responsable d'église pour essayer de trouver un lieu pour le culte en commun. C'est assez compliqué. Il nous a dit, venez donc, parce que vous avez l'habitude. Alors, je voyais bien qu'il disait, si vous pouviez encore l'organiser cette année, ce serait bien d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est là aussi, il faut qu'il y ait plusieurs qui s'engagent, qui viennent, parce que tout ça, c'est faut s'en occuper. C'est des choses peut-être matérielles, mais qui permettent des choses spirituelles aussi. Hein. Alors je souhaite à chacun de trouver cette année, dans l'intimité avec son Sauveur, sa juste place au sein du corps que nous constituons. Peut-être on fera appel aux uns aux autres. Peut-être c'est compliqué, peut-être on ne sait pas, peut-être on hésite, peut-être on a peur, on ne se sent pas compétent. Où on trouve que ce n'est pas juste, je devrais être là. Que chacun se remette devant le Seigneur. Ce que je veux vous dire, c'est que si nous l'aimons, et je crois que nous l'aimons, soyons sûrs que toutes les circonstances qui vont se présenter vont concourir à notre bien. Soyons sûrs, puisque c'est une promesse de sa part. Alors, ce verset que j'aurais donné à l'Église pour cette année, on va le relire. Il commence par « semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, et le défrichez-vous un champ nouveau, il vient comme un moyen. » Nous ne pourrons semer selon la justice et moissonner selon la miséricorde si nous commençons le défrichage. Je crois que c'est notre désir. Il est temps de chercher l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Et je voudrais que, pour terminer, je vais prier, mais je voudrais que l'équipe de louanges vienne reprendre ce chant devant ton autel. Je demande d'être attentif à ces paroles. Je vais vous les relire. Regarde, ô Dieu, notre pays, son cœur est loin de toi. Vois ton Église, implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché. Reviens régner sur la nation. Les sources sont bouchées. Le peuple a rejeté ton nom en suivant ses pensées. Dans ta compassion, viens changer nos sentiments et pardonne le mépris de tes enfants. Réveille-nous, Dieu éternel, pour suivre ta parole. Nous voulons bâtir ton autel et brûler nos idoles. Dans ta compassion, revêt-nous de ton esprit et conduis-nous sur le chemin de la vie.